Chers frères et sœurs et chers amis, bonjour. Et nous continuons aujourd'hui notre 9e étude concernant le salut. Nous donnerons comme titre à cette étude le salut par la foi. Un frère a posé la question suivante. Une personne peut-elle être sauvée si elle cesse de croire au Christ? C'est-à-dire, elle cesse de croire au Christ, pourtant, elle a été convaincue du salut avant, donc autrefois. Ça ne devrait pas arriver, mais ça peut arriver. Tout peut arriver dans la vie. Et voici la réponse. Ce fut un grand réconfort de recevoir votre aimable lettre. Vous exposez votre question, et je suis d'accord avec vous, à propos de la sécurité éternelle du croyant. Un homme croyant peut affliger le Saint-Esprit, mais ne peut le perdre sans autre. Mais qu'en est-il du croyant qui, un jour ou l'autre, cesse de croire? Il n'y a aucune sécurité éternelle désormais. Pour la personne devenue non-croyante, eh bien, ça va être un problème. Un homme ne peut-il pas changer ses croyances? C'est ce que vous demandez dans votre lettre. Est-ce qu'un homme ne peut pas changer ses croyances en cours de route? Ça ne devrait pas arriver, mais vous posez la question, c'est que ça peut arriver. Qu'est-ce que la foi salvatrice? J'aimerais essayer de vous répondre. Il semble que votre difficulté soit dans la compréhension de la foi salvatrice. La foi salvatrice n'est pas une croyance en une quelconque doctrine. Croire en la Sainte Bible ne fait pas d'une personne un chrétien automatiquement. Croire que le Christ fut crucifié pour nos péchés ne fait pas non plus d'une personne un chrétien. Dépendre et se fier au Christ pour le salut, ça c'est, sachez-le bien, une décision personnelle. Une décision pour le salut et une décision, je répète, personnelle, qui désigne la foi salvatrice. C'est un choix et une volonté forte que d'engager son âme à Jésus-Christ. Le sentiment de conviction religieuse que un grand nombre de personnes ont, cela ne sauve absolument pas. Beaucoup de gens ont été sauvés longtemps avant qu'ils n'apprennent ce que la Sainte Bible promettait et ils avaient une parfaite conviction du salut. Le professeur en théologie John Rice nous dit « C'était 3 ans après que je fus converti et avant que je n'eusse la certitude que mes péchés ont été pardonnés. J'essayais encore et encore d'être sauvé, mais j'étais sûr d'être perdu. Je veux dire que je n'en avais aucune certitude. Mais la conviction religieuse est une chose, et la foi salvatrice est une autre chose. je m'étais ensuite définitivement et complètement engagé envers le Christ, me fiant à lui pour mon salut. Je m'exerçais à la foi salvatrice lorsque je me fiais enfin au Christ et que je lui donnais mon âme. Il me sauva. Et après, j'appris de la Sainte Bible que ceux qui croient au Christ étaient sauvés. Alors j'ai eu une complète conviction du salut et n'en doutais plus jamais. La foi salvatrice est comme la foi qu'un homme peut avoir lorsqu'il dépose son argent dans une banque. Quel que soit le degré de certitude que cet homme puisse avoir, eh bien, que son argent soit en de bonnes mains et en parfaite sécurité, cela n'a rien à voir avec la confiance en la foi salvatrice du Christ. C'est pas pareil. Ça ressemble. Cette confiance réside uniquement dans le fait d'engager son argent à la banque et de lui faire confiance. L'intégrité de la foi apporte d'éternels et d'immuables résultats. Imaginons un homme dans une société. Supposons qu'il investisse dans une affaire. Par accord, il investit son argent, sachant qu'il ne pourra pas le récupérer avant au moins 5 ans. Cependant, ayant le sentiment que c'est un bon investissement, il engage son argent dans cette société. La transaction est accomplie, cet homme avait confiance dans cette société tout comme un pécheur sauve sa foi quand il engage son âme au Christ. Puis l'homme pourrait avoir des doutes quant au bon investissement de son argent et craindre que la compagnie ne fasse faillite. Mais rien n'affecterait sa décision première. La confiance en cet investissement est toujours présente. Vous voyez donc que l'homme continue d'avoir confiance ou pas, cela ne changera en rien la foi salvatrice. La foi salvatrice n'est pas uniquement un sentiment de bien-être, c'est une décision à prendre une fois pour toutes envers le Christ et par conséquent, on ne pourra se désister. La foi salvatrice est comme la foi qu'un homme malade peut avoir lorsqu'il appelle un docteur et s'en remet à lui. Mais ce n'est pas de cette foi-là dont parle la Sainte Bible. Parce que s'il n'appelle pas le docteur, il n'y a aucune foi engagée et le docteur ne pourra rien pour lui. Mais s'il finit par appeler le médecin pour une opération importante, ce qui est, on peut dire, un peu comme la foi salvatrice, ça y ressemble beaucoup. L'homme va donc sur la table d'opération, sorti de l'anesthésie, il peut ressentir encore des douleurs et peut sérieusement douter, peut-être, de son opération. Il peut penser que le chirurgien n'a pas réussi totalement. En d'autres termes, l'homme pourrait, après l'opération, manquer d'assurance et se demander s'il a fait une bonne chose. Il pourrait aussi souhaiter ne pas l'avoir faite. Mais il ne peut revenir en arrière sur sa décision qu'il a prise de confier sa vie au médecin par cette opération. Cette décision ne peut donc pas être changée. L'opération a déjà été faite, donc c'est la foi salvatrice. Qu'obtient-on, chers amis, lorsque l'on croit au Christ? Le fait de croire au Christ est une décision, je le répète, qui a d'immédiat et d'éternel résultat. Si l'on dépend du Christ pour le salut, celui-ci a bien lieu immédiatement. Nous ne sommes pas sauvés un jour ou à un moment par hasard. Nous ne sommes pas sauvés par un processus qui se perpétue aussi longtemps que notre confiance existe. Au moment même où un être donne sa confiance au Christ, il naît de nouveau immédiatement. Il devient un autre être. Une partie de lui porte maintenant la semence de Dieu et ne peut délibérément pécher. Son nom est donc écrit au paradis. Tous ses péchés reposent sur le Christ et ont été payés par Jésus. Des changements se sont produits dans sa nature et sa relation avec Dieu. Et ce changement est déjà accompli. Le jeune chrétien peut avoir plus tard, ça peut arriver, des doutes sur son salut. Ça m'est aussi arrivé. Il peut ne plus avoir confiance. Mais voyez-vous, la foi salvatrice n'est pas la même chose que la confiance. Ce sont deux choses. Essayez de comprendre cela. La foi salvatrice n'est pas la même chose que la confiance. Un être détient la foi salvatrice à l'instant où il place sa confiance dans le Christ et le changement s'accomplit. Ce changement ne peut ne pas se faire. La foi est un simple acte de volonté et de cœur. Quand je me suis marié, c'était un acte de volonté et de cœur. Le salut est un acte instantané qui suit l'acte de foi. Après qu'un être ait donné sa confiance au Christ, son salut ne dépend pas du fait qu'il croit qu'il est sauvé. Cela dépend du Christ, puisque tout a été entièrement retiré des mains du pécheur. Le Christ a assumé, le lourd fardeau d'amener cet homme au paradis. Il est maintenant entre les mains du Père et du Christ, et rien au paradis, sur terre ou en enfer, ne peut l'ébranler. Les modernistes ont-ils toujours cru au Christ? Voilà une question. Nous parlons des modernistes qui disent avoir été sauvés dans le passé, mais qui sont maintenant plus sages et qui n'ont plus la même croyance qu'auparavant, depuis qu'ils assistent à des séminaires illuminés. Voyez-vous, il y a deux sortes de modernistes. Il y a les modernistes chrétiens, sans doute, qui ont perdu la foi et qui ont l'esprit si embrouillé maintenant qu'ils n'ont aucune conception très claire des doctrines. Tout se mélange. Vous devez vous rappeler qu'il est possible que des chrétiens soient amenés à diverses sortes d'hérésies. Un homme peut être sincèrement converti, mais être guidé dans l'erreur en ce qui concerne la Sainte Bible et les doctrines. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se convertissent au système musulman. Il y en a même qui deviennent des kamikazes, et j'en passe. Dans un tel cas, le moderniste changera peut-être la doctrine de son enfance ou de son adolescence, mais s'il est vraiment, vraiment converti, il ne pourra changer un certain état d'esprit et de cœur qu'il a ou qu'il devrait avoir envers le Christ. Ce serait toujours vrai s'il est devenu un enfant de Dieu que sa semence est toujours en lui et il ne peut pécher volontairement, selon la première épître de Jean, chapitre 3, verset 9. Ce serait toujours vrai s'il avait été fait participant de la nature divine et il ne pourra changer cette nature-là. Cependant, il pourrait être amené dans une fausse doctrine. Ah oui, il y en a de plus en plus aujourd'hui, parce qu'ils ne savent pas où ils en sont, et Satan fait tout pour les embrouiller. Voyez-vous, mais la plupart des modernistes n'ont pas été vraiment convertis. Je veux dire qu'il n'y a pas eu une véritable nouvelle naissance. Et la plupart de ces incroyants ne déclarent pas avoir eu de nouvelle naissance et ne veulent même pas l'avoir, cette nouvelle naissance. C'est trop ringard. Ils peuvent avoir cru un jour en cette doctrine, mais cela n'a pas fait d'eux des chrétiens. Voyez-vous, les démons croient aussi et ils tremblent. Jacques, chapitre 2, verset 19, si je ne me trompe pas. Croire en la divinité du Christ ne fait pas de quelqu'un un chrétien automatiquement. Et la plupart des modernistes ne déclarent pas qu'ils se sont un jour vraiment, vraiment considérés comme de pauvres pécheurs perdus. Il faut de l'humilité pour comprendre cela, et qu'ensuite, ils ont cru au Christ pour le salut et étaient merveilleusement régénérés par le pouvoir de Dieu le Père. Je ne peux concevoir que l'on réfute la divinité de Jésus-Christ et que l'on n'ait pas un amour profond pour le Christ, malgré que l'on ait été converti. Je ne crois pas, en effet, simplement dire « je ne crois pas ». Eh bien, vous pouvez le dire, on peut tout dire. Mais Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 24, « Je t'ai dit que pour cette raison tu mourras dans tes péchés ». Ceci, si tu ne crois pas en moi, tu mourras dans tes péchés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fils de Dieu Jésus-Christ. Prenons ça au sérieux. Voyez-vous, le fait qu'un être ait un jour cru en la Sainte Bible ne veut pas du tout dire qu'il ait jamais été converti. De l'autre côté, on peut avoir été converti et être amené malgré tout dans une fausse doctrine. L'Esprit de Dieu demeure dans un être qui a vraiment été régénéré et par le Saint-Esprit, il doit sûrement appeler le Seigneur Jésus dans son cœur. Vous et moi ne devons jamais prétendre que nous connaissons le cœur humain assez bien pour décider de qui a été sauvé et qui ne l'a pas été. ne jugez pas trop rapidement, vous ne serez pas jugé, a dit Jésus-Christ. Cependant, un être qui a vraiment, vraiment cru au Christ et qui a pris une décision irrévocable, une transaction a de ce fait été accomplie. Un miracle a eu lieu. Celui qui était un enfant du monde est maintenant un enfant de Dieu. Il est né au royaume de Dieu. La décision de la foi salvatrice était une partie du contrat de l'homme. La régénération miraculeuse de Dieu était donc l'autre partie. Chers amis, il peut y avoir la frustration de se garder soi-même après avoir été sauvé. Une femme pensant qu'elle était perdue a simplement décidé de voir la chose de plus près. Et elle a pensé que si elle péchait à nouveau, c'est ce qu'elle dit, qu'elle a fait, que par cette façon, une certaine doctrine la conduirait à un désespoir total. C'est ce qui est arrivé. En effet, elle a succombé, ça peut nous arriver à tous, mais le Seigneur nous aide à nous relever. Alors elle est tombée dans le désespoir total jusqu'à ce qu'elle apprenne que seul Jésus suffit. Il suffit à sauver et à garder ceux, à garder tous ceux qui croient en lui. Je veux partager avec vous une certaine partie d'une lettre authentique. Je ne donnerai pas le nom de cette femme car elle ne m'en a pas donné la permission. Voici ce qu'elle écrit. Très cher frère, je suis une enfant de Dieu depuis l'âge de 9 ans. Mais il n'y a pas très longtemps que j'ai appris que je ne serai jamais renié par mon Père au paradis et je suis toujours allé dans des églises où l'on m'a appris que si je tombais dans le péché à nouveau, je serais perdu et que je devrais être sauvé à nouveau. Autrement, je resterais perdu. Je me laissais aller à de terribles péchés car j'étais dégoûté, complètement dégoûté de simplement vivre une vie parfaite et sans péché. C'était beaucoup trop monotone pour moi. Je trouvais que c'était impossible de vivre sans péché et je m'adonnais évidemment à une vie de péché et de débauche. Après un certain temps, cette vie me donna la nausée. Je détestais mes péchés, mais que pouvais-je faire? Je savais que ma nature humaine était faible. La mienne aussi. Je voulais revenir à la vie de chrétienne, mais je savais que tôt ou tard, je pécherais à nouveau, me détournerais de Dieu et que je perdrais la joie et la paix de la douce relation avec Dieu. Or, il n'y a pas très longtemps, une nouvelle voisine arriva. Elle me parlait souvent de la sûreté du Christ et elle renforçait toujours ses paroles. J'ai toujours été une personne qui devait prouver les choses avant de les accepter, et j'accepte les paroles de Dieu avant celles de l'homme, bien entendu. Donc, si Dieu dit que je suis mauvais, alors je suis mauvais. Si il dit que je suis bonne, alors je suis bonne. Je remercie Dieu de nous guider, et ceci est sa précieuse parole. Or, depuis que j'ai trouvé la vérité au sujet de la sûreté du Christ, je suis la plus heureuse des personnes, et je remercie Dieu pour son amour et sa miséricorde. Je le remercie parce qu'il est merveilleux. N'est-il pas merveilleux d'être une personne bénie à qui Dieu a donné la vie éternelle? Quelques commentaires, chers amis, concernant cette lettre. Premièrement, vous noterez qu'après que cette sœur soit retombée dans le péché et qu'elle pense qu'elle soit perdue à nouveau, elle est devenue désespérée, sachant combien imparfaite elle était, comme nous tous. Elle dit : je me laissais aller à de terribles péchés car j'étais dégoûté. Et j'étais vraiment dégoûté, surtout d'essayer de vivre une vie parfaite sans commettre de péché. C'était beaucoup trop monotone. Je trouvais que c'était impossible de vivre ainsi, et je m'adonnais à une vie de péché et de débauche. Partout, nous avons trouvé des gens qui pensent qu'ils doivent être sauvés en vivant une vie droite et parfaite. Oui, il faut au moins essayer de tout son cœur. Nous avons aussi trouvé des gens qui pensent qu'ils seront perdus à nouveau s'ils pêchent. Et nous avons trouvé que ce fol apprentissage que d'être sauvé et de le rester par soi-même a conduit des milliers de personnes, souvent, au désespoir. Nous avons parlé à des gens dans les missions de secours qui ressentaient qu'il n'était pas nécessaire d'être en relation avec Dieu puisqu'ils ne pouvaient pas vivre une vie parfaite. Notez que moi non plus, je peux pas toujours vivre une vie parfaite. J'essaye de tout mon cœur tout de même. Mais je ne crois pas que je suis devenu parfait. Je ne penserai jamais une telle chose de moi-même. Ce serait de l'orgueil. Et j'ai également parlé donc à des prédicateurs de l'Évangile qui trouvent qu'ils ne pouvaient vivre sans aucun échec et sans péché. Et ils pensaient que c'était parfois sans espoir pour eux d'être sauvés, et ils tombèrent encore ainsi plus profondément dans le péché. Dans l'un des services de l'armée du salut, la plupart de ceux qui s'y présentaient avaient fait la déclaration de foi, mais ils trouvaient qu'ils étaient tombés dans le péché. Quelques-uns s'étaient présentés une semaine avant, d'autres pour proclamer une douzaine de fois que le Christ est le Sauveur. Ceux-ci, qui ont dit de voix haute, avec conviction, que le Seigneur était leur Sauveur, ceux-ci ressentaient le besoin d'être sauvés à nouveau et de recevoir ainsi la bénédiction de Dieu. Oh, ne pensez pas, chers amis, que les gens qui croient pouvoir se sauver eux-mêmes ont une vie beaucoup meilleure. Les Arméniens adorent raconter des histoires au sujet de personnes qu'ils connaissent. Ces personnes ont déclaré leur foi, puis sont retombées dans le péché et sont mortes dans la désillusion et la frustration. Ils disent que cela prouve qu'ils étaient sauvés, puis perdus à nouveau. Actuellement, et dans beaucoup de cas, ceux qui sont si découragés par cette fausse doctrine de ne pouvoir mener une vie de chrétien parfaite ressentent le sentiment qu'il est impossible pour eux de vivre dans le droit chemin et d'être parfaitement sauvés. Si seulement ces gens-là savaient que Jésus-Christ non seulement les sauve, mais qu'il les garde et qu'il peut les aider à vivre une vie de chrétien. Deuxièmement, notez aussi ce que notre sœur dit. Après un certain temps, cette vie me donna la nausée. Je détestais mes péchés. Mais que pouvais-je faire? Je savais que ma nature humaine était faible. Je voulais revenir à la vie de chrétienne, mais je savais que tôt ou tard, je pécherais à nouveau. Donc, chers amis, vous voyez bien qu'une personne ayant expérimenté la nouvelle naissance a quelque chose en elle qui la blâme de tout péché et la rend malheureuse de ses péchés. Cela veut dire que lorsque Dieu sauve les gens, il fait d'eux de nouveaux êtres. Ils deviennent de nouvelles créatures. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent aussi parfaits que les anges. Ici-bas, nous ne le serons jamais. Les personnes sauvées le restent. Pourquoi? Car elles ont été faites enfants de Dieu avec une nouvelle nature et tous leurs péchés reposent maintenant, c'est ça qui est important de vous rappeler, et tous leurs péchés reposent maintenant sur le Christ et ils ont été payés à la croix. Ne me dites pas que lorsque nous prêchons que Dieu sauve les gens pour toujours, que nous les encourageons à pécher. Ah non, 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 et non. Nous les encourageons à croire à celui qui sait qu'ils ne peuvent se sauver eux-mêmes. Et ils peuvent par contre rester sauvés par la foi. Donc, ils ont besoin de croire en Jésus-Christ afin de vivre beaucoup mieux que s'ils ne dépendaient que d'eux-mêmes. Et troisièmement, notre sœur dit « Je remercie Dieu de me montrer mes faiblesses humaines. » Ceux qui pensent que l'on peut se sauver soi-même ne comprennent pas ce que le salut veut dire. Ils ne comprennent pas le salut par la grâce. Et par conséquent, ils ne comprennent pas non plus la promesse de vie éternelle. Il nous a donné la promesse de la vie éternelle, bien que sachant que tant que nous serons ici-bas, nous ne pourrons jamais prétendre être aussi parfaitement sans péché que Jésus-Christ l'a été. Maintenant que cette sœur réalise que Dieu a compté tous ses péchés payés, elle sait maintenant qu'elle peut demander le pardon et la purification. Disons ensemble, Seigneur, pardonne-moi et purifie-moi, sanctifie-moi. Oh, j'en ai tellement besoin. Merci de ton aide. Merci que tu ne me laisseras jamais tomber. Proclamer être parfait et être sans péché quand on ne l'est pas, cela n'aide pas les gens à vivre très bien. Mentir à soi-même n'a jamais fait de quelqu'un un meilleur chrétien. Pour terminer cette très courte étude, notez que notre sœur n'excuse pas les péchés. Elle ne les excuse pas. Elle est malheureuse d'avoir péché. Donc, c'est le Saint-Esprit qui lui fait comprendre cela. Sans le Saint-Esprit, elle passerait par-dessus tout ça et son âme et son esprit deviendraient en quelque sorte amorphes et ne se rendraient à la longue même plus compte qu'elle commet des péchés, des voyous meurtriers ne se rendent même plus compte. Ils ont tué 2-3 personnes, ils peuvent en tuer d'autres parce que leur conscience, tout ce qui a à faire avec l'âme et la conscience est devenu mort. Ce sont des zombies, ce sont des morts vivants que par la chair l'enveloppe, mais déjà bien morts, totalement morts. Ceux qui disent que lorsque nous prêchons le salut par la grâce et le salut éternel que Dieu a promis, que nous prêchons une religion pécheresse, que nous ne sommes pas sincères, eh bien, ils passent complètement à côté de l'essentiel. Ceux qui savent que Jésus a payé, il a payé pour tous leurs péchés, il a payé pour les miens, j'en suis convaincu. Mais ça ne veut pas dire que demain, je vais délibérément commettre des péchés, simplement comme ça, parce que ça me fait plaisir. Ah non, 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 et non. Vous l'avez compris. C'est un contrat moral que j'ai fait avec mon Sauveur et Seigneur. Un contrat moral. Quand vous vous mariez, vous faites un contrat moral avec votre bien-aimé. Vous ne faites pas ça à la légère, comme pour simplement aller voir un film au cinéma. Ceux qui savent que Jésus a payé pour tous leurs péchés ont parfaitement le droit de demander une nouvelle assistance et une nouvelle purification. Oui, je peux, le matin en me levant, demander au Seigneur de me garder, de me protéger, que je le désire de tout mon cœur. C'est important. Et il va m'aider. Donc, nous avons le droit de demander une nouvelle assistance et purification pour pouvoir vivre mieux que ceux qui se vantent tellement d'avoir plus qu'ils n'ont qu'ils sont en train de dire qu'ils sont mieux que les autres, au-dessus des autres, et de tous ceux qui sont désespérés quand ils se rendent compte qu'ils ne sont pas ce qu'ils ont dit d'être. Il peut arriver qu'il y en a, même des chrétiens, qui prétendent d'être de ce qu'ils ne sont pas du tout. Nous ne devons pas faire cela. Soyons assez humbles. Je viens vers toi aujourd'hui, Seigneur. Et je me sens tellement sale, encore tellement éloigné de ce que tu voudrais que je sois. Sanctifie-moi, purifie-moi davantage. Je le désire de tout mon cœur. Nul n'est bon chrétien s'il minimise la grâce de Dieu, et même pire, s'il se moque de la vertu humaine. Allons de l'avant, ensemble, en nous confiant totalement dans notre Seigneur et notre Sauveur. Chers amis, cette courte, très courte étude mérite aussi une petite prière. Prions. Je te prie, ô Seigneur et Maître, plein de bienveillance, et je te supplie de bénir mon travail et d'accorder le secours de ta grâce au penchant de mon esprit. Donne-moi de mener à bonne fin les modestes œuvres que je suis également sur le point d'entreprendre. Fais qu'elles exaltent ta gloire et ta justice. Fais qu'elles soient utiles à mon prochain et accorde-moi de les faire connaître à ceux qui en comprendront l'importance. Et maintenant, Père, je me réfugie humblement et du plus profond de mon cœur sous la divine protection du Seigneur Jésus-Christ qui sauve et qui guérit encore aujourd'hui. Seigneur, tu nous dis dans le psaume 49, le sacrifice de ma gloire me couvrira d'honneur, c'est la voie où je vous révélerai le salut divin. Ils aiment vraiment Dieu, ceux-là seuls, qui recherchent toute occasion de glorifier son saint nom. Et dans le Proverbe chapitre 18, il y a une pensée qui dit « C'est une citadelle inexpugnable que par le saint nom du Seigneur, le juste peut se réfugier, s'y réfugier, et il sera sauvé. » Croyons cela ensemble, chers amis, et que le Seigneur vous bénisse, et Dieu voulant, à demain matin, pour une nouvelle étude concernant le salut. À bientôt, et je suis avec vous en pensée et en prière. Je désire que vous soyez heureux et heureuses. À bientôt. Au revoir.